L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Transistor. Vous le savez, c'est le nouveau nom de Radio Évasion. LEM, c'est toujours en direct à midi et rediffusé à 18h. Aujourd'hui, on rouvre une page d'histoire brestoise, comme on le fait régulièrement, en compagnie de Benoît Quinquis. Quand il n'est pas philosophe ou dessinateur satirique sous le pseudonyme de Bleuquin, eh bien donc, il nous raconte l'histoire de Brest. Et aujourd'hui...
C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, j'achèterai aux marchands toutes ces roses blanches pour toi jolie maman.
Bon, il faut peut-être avoir un certain âge pour connaître cette chanson, Les Roses Blanches de Berthe Silva, une chanteuse extrêmement populaire au début du XXe siècle. Mais qui sait que Berthe était brestoise? Pas moi, en fait, je ne savais pas, je l'ai appris grâce à Benoît. Bonjour Benoît.
Bonjour Véronique.
On parlera de Berthe Silva tout à l'heure. Et puisque aujourd'hui vous nous brossez des petits portraits de 16 brestoises remarquables, on va procéder par ordre chronologique. Et on commence avec Louise de Kerroual.
Oui, Louise de Kerroual, donc, a été consacrée il n'y a pas si longtemps encore à un son et lumière intitulé Le fabuleux destin de Louise de Kerroual. Et je crois que l'expression n'est pas trop forte, parce que Louise de Kerroual, née en 1649, était fille d'une famille de la petite noblesse bretonne, dont le train de vie devait être proche de la classe moyenne d'aujourd'hui. Donc par conséquent, c'est assez remarquable que cette jeune fille de Basse-Bretagne soit devenue demoiselle d'honneur de madame, donc l'épouse du frère du roi. C'est une maîtresse qu'elle admirait et qu'elle accompagnait lors d'un voyage en Angleterre, car madame se trouvait ici d'être la sœur du roi d'Angleterre, Charles II, qu'on appelait le Merry Monarch. À cette occasion, on dit que Charles II serait tombé sous le charme de la belle Louise, la belle et appétissante Louise. Toujours est-il que comme madame mourut peu après son retour en France et que le décès s'était fait dans des circonstances assez troubles, eh bien, pour calmer le chagrin du monarque anglais, qui était encore un allié peu sûr de la France, eh bien, on lui avait Louise, qui est donc devenue sa maîtresse favorite. On a souvent dit qu'elle avait été une espionne, c'est pas tout à fait vrai. Elle a plutôt été une lobbyiste, au sens où elle a vendu le produit français en Angleterre, ce qui est en terre protestante n'est pas forcément évident. Bon. Quand Charles II est mort en 1720, Charles II, pardon, est mort en 1685. Je me trompe. En fait, celui qui est mort en 1723, c'est le fils qu'elle avait eu avec lui. Donc,
Elle est à cheval sur le 17e et le 18e siècle.
Exactement. Voilà. Donc, elle est retournée en France à ce moment-là. Elle s'est retirée sur cet Domini. Elle n'est jamais retournée dans son manoir de Kerroual. Donc, elle a vécu très longtemps, jusqu'à 85 ans. À l'époque, ce n'était pas évident.
Ah oui.
Et selon Voltaire, elle a été restée jusqu'à ces derniers jours très belle et très appétissante. Donc, et le petit-fils qu'elle avait eu avec Charles II fut le réconfort de ses vieux jours. C'est un beau roman, une belle histoire, comme on dit.
Elle est morte en 1734. La belle Tamisier, donc c'est du 18e siècle, mais on ne sait pas quand elle est née, c'est ça?
Oui, en fait, on sait très peu de choses sur elle. C'est en grande partie une légende. On sait à peu près, notamment grâce à Jacques Arnold, qu'elle était la belle-fille d'un certain Mathurin Portier, qui était tambour-major de Brest, donc un rôle assez important. Il semble que la belle Tamisier, celle qu'on a surnommée comme ça, dont on ne sait même pas vraiment le nom...
On ne sait même pas si elle était vraiment belle.
Oui, elle était la veuve donc, du fils de ce Mathurin Portier, qui était un homme assez influent. Et apparemment, comme elle était veuve, elle était libre. Donc, elle devait avoir les mœurs un peu trop libres pour une femme de l'époque. Et donc, Mathurin Portier l'aurait fait... Et toujours est-il que Mathurin Portier l'aurait fait enfermer en 1782 au Refuge Royal.
Il me semble qu'on en a déjà parlé du Refuge Royal, d'ailleurs.
Oui, effectivement, parce qu'il est effectivement proche de... Il était dans le quartier de Pontagnou. C'était une prison pour femmes, où les gérée par des nonnes et qui faisaient régner une rigueur extrême, parce qu'on y faisait enfermer les femmes de mauvaise vie, ou supposées comme telles.
Une sorte de Bastille pour les femmes, quoi.
Exactement. Et 10 jours après l'arrivée donc, de la belle Tamisier, il se trouve que le refuge a pris feu et était entièrement détruit. Alors, on ne sait pas très bien si c'est bien la belle Tamisier qui aurait mis le feu. On ne sait même pas si elle est vraiment morte dans cet incendie. Donc, il y a beaucoup... On prétend même qu'elle aurait dit, en y entrant, « Ici, je vais faire mon carnaval. » Donc, toujours est-il... Donc, il y a une grosse part de légende, mais donc la légende retient donc que c'est elle qui a mis le feu et qu'ensuite on ne sait pas si elle a réussi à s'enfuir ou si elle est morte dans l'incendie. Enfin, mais donc comme souvent quand l'histoire des trous, c'est la légende qui complète. On trouve dans la rue Saint-Malo, qui était où se trouvait à peu près le refuge, une plaque qui représente la belle telle qu'on l'imagine, avec la phrase qu'elle aurait prononcée « Ici, je fais mon carnaval ». C'est une sorte d'icône féministe qui a traversé l'époque.
Et donc, l'incendie, c'était en 1782. Donc, si elle est morte dans l'incendie, elle est morte en 1782. Mais oui. C'est pas sûr.
Ah non.
Déjà qu'on savait pas quand elle était née. Claire de Duras, alors elle est née en 1777, apparemment.
Oui, et Claire de Duras, donc, c'était une femme assez remarquable, puisque déjà, elle a tenu à Paris un salon très réputé où elle a notamment rencontré Chateaubriand. Donc, elle a toujours été amoureuse de lui, sans espoir de retour. Hein. Donc, il faut dire qu'elle n'était pas très belle, il faut bien dire ce qui est, mais elle était très intelligente et très cultivée. Donc, d'ailleurs, elle s'est illustrée comme romancière, et notamment en écrivant Ourika, qui sont un des premiers romans antiracistes de l'histoire. Donc, il raconte en effet comment une enfant noire est offerte à une famille aristocratique. Il bénéficie d'une éducation soignée, mais ne peut épouser l'homme qu'elle aime et finit finalement ses jours dans un monastère. Donc,
ah oui, c'était moderne pour l'époque, parce que c'est quoi, début du 19e,
C'est en 1823 qu'il a été publié. Donc, effectivement, ouais. C'était très en avance pour l'époque. Ça a quand même diffusion assez large, une quarantaine d'exemplaires, dans un premier temps. Puis ensuite, une diffusion beaucoup plus large. Même Goethe aurait été remué en le lisant. Donc, seulement, comme elle ne prenait pas trop au sérieux sa carrière de femme de lettres, ses romans en suivant ont eu une diffusion beaucoup plus discrète, notamment Édouard, publié en 1825, qui racontait l'histoire d'un homme qui ne peut pas épouser sa bien-aimée parce qu'il n'est pas aristocrate. Et il faut aussi mentionner un autre livre publié à titre posthume, mais là vraiment très en avance pour l'époque, puisqu'il s'appelait Olivier ou le secret, qui traitait de l'impuissance et de l'homosexualité. Il ne sera édité qu'en 1971. Comme quoi, il ne faut pas naître trop tôt. Hein, donc.
En effet, étonnante, Claire de Duras, donc, qui est morte en 1828. Mais alors, ça nous fait rentrer dans le 19e siècle avec une femme de musique, Eudoxie Péan, qui elle est née en 1805.
Oui, alors attention, Eudoxie Péan nous a laissé des mémoires artistiques qui, il faut bien le dire, sont en grande partie mensongères. Elle s'invente une ascendance aristocratique.
On les trouve sur Wikipédia d'ailleurs, sur Wikimedia.
Elle s'invente notamment une ascendance aristocratique, mais c'est totalement faux. Elle était fille d'un chirurgien qui, à 60 ans, était encore au plus bas de l'échelle hiérarchique. Donc,
son nom que j'ai trouvé, Eudoxie Françoise Péan de la Roche-Jagu, c'était pas son vrai nom.
Non, pure invention. Elle s'appelait Eudoxie Péan tout court, point barre. Donc, et d'ailleurs, on sait peu de choses sur elle. On ne connaît en fait d'elle que l'opéra La Jeunesse de Lully, qu'elle a donné à Brest en 1847 et qui a eu sur place un joli succès. Donc, galvanisée par ça, elle est partie à Paris, mais elle ne fit jamais le poids face au grand compositeur installé à la capitale. Jacques Arnold, qui a fait des recherches assez poussées sur elle, pense qu'elle va être une musicienne plus amateur que virtuose. Mais il faut lui... D'ailleurs, elle est morte dans la misère dans son petit appartement parisien en 1871. Mais il faut lui laisser ça. Malgré les déceptions, malgré les promesses qui n'ont pas été tenues, elle n'a jamais renoncé, elle s'est accrochée. De ce point de vue-là, elle était une ambassadrice de la Tennessee des Bretonnes.
Est-ce qu'on a conservé ces partitions de son fameux opéra, là ?
Sûrement, mais je ne les ai pas trouvées.
Bon. Enfin. Ah oui, non, mais là, je n'ai pas trouvé quelqu'un, en tout cas, qui interprète du Eudoxie Péan sur YouTube.
Ouais. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il laissait encore plus de place aux femmes, et donc, c'était difficile pour elle de se remarquer. Donc.
Et est-ce que c'était plus facile pour une poétesse comme Léo Kadir Sampanker?
Alors, ce qu'il faut savoir sur Léo Kadir Sampanker, née en 1817 à Lenilis, c'est qu'elle a notamment été l'épouse du docteur Salin Pain. Un Caire qui a été maire de Brest. Donc
ça aide.
Oui, effectivement. Contrairement à Eudoxie Péan, dont l'ascendance était plutôt modeste, c'était vraiment la haute société de l'époque. Et puis au niveau, cela dit, en tant que poétesse, en tout cas, elle s'est vite fait marquer. Elle a commencé en 1862 avec la publication des Chants du Foyer, qui lui a valu de nombreuses félicitations. Même Lamartine, Hérédia, Le Comte de Lille et même Victor Hugo l'auraient reconnue comme l'une des leurs. On l'a surnommée la Muse Bretonne. Elle a publié plusieurs Elle a publié plusieurs livres. Et elle a même fait une des rares épopées en français, Véléda, qui raconte l'histoire d'une druidesse de la pointe du Raz, amoureuse d'un général romain converti au christianisme. Malgré tous ses succès, qui ont d'ailleurs franchi les frontières françaises, elle s'est retirée de la vie littéraire pour se consacrer à sa famille. Elle a juste publié à ce près quelques bulletins, quelques poèmes dans le bulletin de la Société académique de Brest. Donc,
Mais oui, c'était un classique. Alors la suivante, je la connais, puisque déjà elle a donné son nom à la bibliothèque du Fou, c'est Nathalie Lemel.
Oui, Nathalie Lemel, de son nom de jeune fille, Nathalie Duval, née à Brest le 24 août 1826. Alors, ce qui est remarquable, c'est que ce fut une militante féministe et anti-exploitation de la première erreur. Donc, elle a travaillé à Quimper, où elle a lutté pour l'égalité des salaires entre les ouvriers hommes et les femmes. Elle a adhéré à la première internationale. Donc, elle était un peu trop libre.
Elle était communiste, quoi.
Pas communiste, communarde. Puisqu'elle s'est. Pendant la Commune de Paris, elle est montée sur les barricades aux côtés de Louise Michel, avec qui elle a créé le Comité de l'Union des Femmes pour la Défense de Paris. Après la défaite, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie, mais en 1879, elle a été graciée et est revenue en métropole, où elle a continué à lutter malgré ses forces déclinantes.
En Nouvelle-Calédonie, les femmes allaient au bagne aussi ou...
Eh oui.
Ah oui. Donc, elle était costaud parce qu'elle a vécu presque 100 ans, Nathalie Lemel.
Effectivement, elle est morte en 1921. C'était une toute petite femme aux yeux gris, mais effectivement hyper volontaire, une force morale hors du commun. D'ailleurs, quand elle est morte en 1921, elle n'a renié absolument aucun de ses combats. Donc.
Et Marie Souvestre, elle aussi, elle a eu des combats féministes, mais un peu d'un autre style.
Il y a plusieurs façons de lutter. Donc, Marie Souvestre, née en 1835, effectivement, est notamment connue pour avoir fondé à Allenswood, en 1883, un pensionnat de jeunes filles de la haute société, où avec des principes éducatifs extrêmement innovants pour l'époque. Elle prenait notamment l'autonomie de la réflexion en vue de l'indépendance. Et on était encore en pleine société victorienne, c'était pas rien. Elle a aussi été la formatrice de la jeune Eleanor Roosevelt, la future First Lady. Donc.
Elle était préceptrice, comme on disait à l'époque, peut-être, c'est ça ?
C'est tout à fait ça, oui.
Et donc, elle a inventé des méthodes assez proches de, finalement, Montessori, ou on pourrait dire ça, en extrapolant. Quoi.
Se faire de l'anachronisme quand même. Donc,
oui,
disons qu'elle fait partie de ces pédagogues pour qui les femmes doivent avoir une éducation aussi soignée que celle des hommes. Donc, et aussi, qui va aussi mener à la réflexion autonome, à la liberté. Donc...
Marie Souvestre. Alors, une autre noble. Enfin, c'est vrai que dans cette liste, il y a beaucoup de nobles, hein, forcément. Béatrice de Trobriand.
Ah, alors, Béatrice de Trobriand, c'est une histoire un peu triste parce qu'elle est née le 20 novembre 1850. Il faut savoir, c'est une femme qui avait presque tout pour être heureuse, mais ne le fut jamais. Notamment, elle fut l'épouse de John Bernard Steers. De cette union, elle a eu 4 enfants, dont aucun ne survivra à sa mère. Donc, et ça, perdre un enfant, c'est déjà ce qui est le plus triste qui puisse arriver à une personne. Alors tous, vous imaginez. Donc, elle est notamment connue parce qu'elle fut la propriétaire du manoir de Kersteers. Oui, Kersteers, du nom de son époux écossais, donc, qui aujourd'hui abrite le lycée Fénelon.
Ah, d'accord.
Et toute sa vie, cette femme généreuse, parce qu'elle était très généreuse, c'est une philanthrope, sema autour d'elle le destin que le destin lui refusait. Elle prit en charge le bien-être des vieux ouvriers de son premier mari. Oui, parce que son mari était un mania du gaz. C'est lui qui avait installé la fameuse usine à gaz qu'il y avait au port de au commerce. Elle a offert des rentes aux malades, aux handicapés, aux veuves. Elle dota les enfants et les orphelins. Elle a créé les premières sociétés de secours de la région. Elle a même accueilli dans son manoir de Kersteers des soldats américains. Donc, on l'appelait la fée de Kersteers. Donc,
elle avait de l'argent, elle s'en servait généreusement.
Oui.
Mathilde de la Porte.
Alors, Mathilde de la Porte, encore une poétesse, donc née à Lannilis en 1886, mais dont la famille résidait à Brest, plus précisément 13 rue de Traverse. On sait relativement peu de choses sur sa vie personnelle. Donc, elle a publié un premier recueil en 1909 sous son vrai. Et non, intitulé « Les Ruisselets », avec une poésie très imprégnée de l'ambiance du pays natal, mais qui célèbre aussi la lumière de l'Italie, qu'elle avait visitée avec son mari. En 1913, il y a eu « En demi-teinte », qui lui a valu le prix Archon d'Épérouse de l'Académie française, ainsi que le prix de littérature spiritualiste. Donc, vous voyez, elle s'est quand même fait remarquer. En 1920, elle publie « La poésie de vivre », un recueil plus pessimiste sur la fugacité du bonheur et de la vieillesse et la mort. Elle n'a pas oublié l'amour pour son mari, auquel elle dédiera son dernier recueil, La glèbe humaine, paru en 1928, qui a encore valu un prix, le prix Arctique de l'Académie française.
Et elle était peintre aussi, Mathilde de la Porte ?
Pas ma connaissance. Donc,
non. Et puis alors certaines écrivaient de la poésie, puis d'autres écrivaient du théâtre, comme Marie Le Néru.
Alors Marie Le Néru, ce qui est remarquable, c'est qu'elle est issue d'une famille de navarques, donc c'est-à-dire de hauts officiers de la marine. Elle est née en 1875. Alors ce qui est important à savoir, c'est que en 1887, elle a contracté une roue, alors qu'elle était encore une très jeune fille. Elle avait une rougeole qui la rendit partiellement aveugle et définitivement en sourde. Donc elle voyait très mal et entendait très peu.
Ah oui, la rougeole, c'est pas toujours une maladie bénigne.
Elle n'entendait pas du tout. Donc alors ça aurait pu être la fin de tout, mais elle était hyper volontaire et donc rien ne l'empêchait de continuer à écrire. Elle écrivit beaucoup, 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 et notamment du théâtre, oui. Donc pas seulement du théâtre, elle a aussi fait paraître sous son vrai nom le cas de Miss Helen Keller, consacrée à une Américaine sourde et muette et aveugle de naissance. Et,
donc, exact, c'est connu.
Mais elle est aussi connue effectivement. Enfin, elle commence à le redevenir il n'y a pas si longtemps, des universitaires ont entrepris de rééditer son théâtre, un théâtre qui est très intellectuel, un peu trop justement, avec peu d'action, des sujets arides, ce qui peut expliquer un relatif oubli, mais qui a quand même été remarqué à l'époque par des critiques de renom comme Catherine Mendès et Léon Blum. Donc, et pendant la guerre, elle évolua vers le pacifisme et proposa une paix internationale garantie par une société des nations. Là encore, elle était en avance sur son temps. Donc,
oui, en effet, Marie Le Néru. Et on en arrive cette fois à la fameuse Berthe qu'on va écouter encore un peu.
Certainement la femme séduit surtout par son gentil frou-frou.
Alors là, c'est une chanson qui nous laisse mesurer le chemin parcouru sur l'image de la femme entre l'époque de Berthe Silva et la nôtre. Et donc, Berthe Silva était brestoise.
Plus précisément, elle est née à Lambézélec, qui à l'époque était une commune autonome. Mais effectivement, donc, elle est née sur l'actuel territoire de Brest, plus précisément le 7 janvier 1885, dans un milieu assez modeste, mais pas misérable. Donc, elle fréquentait jusqu'à 12 ans l'école Bel Air, où faute d'avoir fait, elle n'a pas montré un intérêt démesuré pour les études, mais a quand même obtenu en 1891 le premier prix de récitation à l'école. Alors c'est sans doute ce qui l'a poussée à mener cette carrière artistique. Elle a quitté Brest en 1900 pour devenir femme de chambre à Saumur, et en 1910, où sa carrière de chanteuse débuta par une réponse à une annonce, c'est là qu'elle prit le pseudonyme de Berthe Silva, parce que son vrai nom c'était Berthe Faquet. Faquet qui est déjà plus typique de notre région. Donc, elle parlait assez peu de sa vie. On ne sait pas grand chose sur son enfance bretonne, mais elle avait quand même un petit accent brestois quand on l'entend.
Mais alors,
bien.
Elle roulait l'air, donc tout le monde roulait l'air à l'époque, c'est ça. Enfin.
Oui, disons qu'effectivement, ça choquait moins, entre guillemets. Mais alors, même dans ses chansons, on ne trouve pas de traces de ses origines bretonnes, parce qu'il n'était que l'interprète de ses chansons. Mais elle avait oublié ses origines, puisque quand on réfléchit bien, on pense à la belle époque, une atmosphère un peu insouciante. En fait, ce n'est pas si simple, parce que quand on écoute bien ses chansons, parce qu'elle choisissait ce qu'elle interprétait quand même, c'est quand même un répertoire qui parlait beaucoup de la misère, de la pauvreté, des orphelins. Donc,
les roses blanches et la tuberculose.
Ah,
c'était quand même une époque pas amusante. Ouais. Hein. Même si Froufrou, c'est léger.
Alors, elle avait l'impression d'être mauvaise mère, mais en fait, elle ne s'était pas désintéressée des enfants. Elle était seulement détournée parce qu'elle était trop occupée.
Elle n'a pas eu d'enfants.
Si, elle en a eu. Mais elle s'en occupait peu, effectivement, parce que la carrière d'artiste l'en détournait un peu. Donc,
elle avait une carrière internationale ou ça restait en France
Ça, je ne sais pas. Les artistes français s'exportent assez difficilement en France. Mais je sais en tout cas qu'en France, elle avait noué une relation privée avec le public qu'il a surnommé Cœur d'or. Donc, elle est décédée en 1941 à Marseille, où elle s'était réfugiée pour fuir les Allemands. Donc,
elle n'est pas revenue en Bretagne alors.
Eh ben non.
Et on sait pourquoi elle a choisi ce nom de Silva.
Je ne sais pas. Non.
Bon, Berthe Silva. Clotilde Beaugion-Carriou, qui était poétesse, encore une, décidément.
Clotilde Beaugion-Carriou, née effectivement en 1887 à Gouézic, donc qui a vécu à à Brest. Donc, alors, ses premiers recueils, elle les a publiés en 1932, Fleurs celtiques et poésie, puis Hortensien en 1933. Le premier est imprégné de la vie rurale et le deuxième exprime la nostalgie, le pessimisme de l'auteur. Donc, le troisième laisse sentir aussi un besoin absolu. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'elle était veuve. Donc, elle était veuve et la poésie lui permettait d'exprimer cette souffrance. Dans le civil, elle était institutrice à l'école de la mairie de Brest, d'où le fait qu'elle soit liée à la ville du Ponant. Donc, elle a continué en marge de ces activités-là parce qu'être enseignante, c'est quand même très prenant. Elle publia des poèmes dans la presse ainsi qu'un nouveau recueil intitulé Paul, édité par l'édition Poésia, basé à Brest. Et en 1835, elle figure dans le florilège de cette maison. Donc,
elle est née en 1887, mais enfin, on peut dire que c'est une femme du XXe siècle parce qu'elle est morte en 1976. Donc,
tout à fait, oui.
On trouve ces poèmes, ils sont édités quelque part.
Ben, c'est difficile à trouver en fait.
Ouais,
effectivement, beaucoup de. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, ou heureusement, que certains auteurs sont un peu oubliés. Donc.
Et alors, personnage intrigant forcément quand on voit son métier, Lydia Oswald, espionne, une espionne brestoise.
Oui, elle était née en 1906. C'était une Suisse allemande. Elle était très belle, vraiment très belle. Elle n'était pas blonde comme l'a dit la presse. Elle avait plutôt les cheveux châtains. Elle est arrivée à Brest en 1935 et arrivée à séduire l'enseigne de vaisseau Guignard, donc, où elle manifestait un vif intérêt pour les armes sous-marines. Et quand Guignard s'absenta, elle loue une nouvelle idée avec le lieutenant de Forceville. Le 2 mars, elle s'apprête à repartir pour Paris, mais avant ça, elle est arrêtée, accusée d'espionnage au profit de l'Allemagne nazie. C'était pas une surprise. Pour le public, les gens étaient surpris parce qu'on ne soupçonnait et pas, mais l'armée, mais elle avait déjà proposé ses services au renseignement français. Elle est donc fichée et suivie. Donc,
elle était un peu agent double, entre guillemets. Enfin non, elle a quand même travaillé que pour les Allemands.
Il faut savoir que c'était une femme qui rêvait d'aventure. Donc, je pense qu'elle s'est offerte au plus offrant. Donc,
mais elle venait d'où quand elle est arrivée à Brest? Donc, elle venait d'où départ?
Elle était suisse-allemande, donc c'est ce que j'ai dit.
Ah, oui, c'est ça, suisse-allemande, oui. Donc, évidemment.
Mais je ne pense pas qu'elle était une nazie, si c'était la question que vous posez. Donc, il faut savoir qu'avant de son procès, on l'autorisait à faire une toilette. Elle avait été incarcérée à Pontagnou, la prison la plus terrible qu'il y a eu à Brest. Mais on l'autorisait à faire une toilette. Donc, elle arrivait à son procès amaigrie mais pimpante. Ça a dû influencer le jury parce que l'épreuve est beau être accablante. Contrairement à Matahari, pour lesquelles l'épreuve était assez légère, donc elle n'écopa que de 9 mois et comme de prison. Et comme en plus elle avait déjà purgé 7 mois en préventive, elle fut libérée le 2 décembre 1935. Elle était conduite à la frontière nazie. Après, elle a vécu une histoire qui est digne d'un roman picaresque. Donc, il faut croire que ça l'a conservée. Elle est morte à Zurich en 1982. Donc.
Ah oui, mais elle n'est pas revenue en Bretagne non plus.
Non, jamais.
Lydia Oswald.
Bah, elle était grillée là-bas.
Ouais, ouais, un peu. Hein. Simone Manon, elle c'est l'ancêtre, c'est la précurseur de Jenny Longo finalement.
je ne sais plus si elle a eu même longévité. Donc, toujours est-il qu'elle est née en 1929. Elle était la fille d'un commerçant qui tenait un magasin de cycles à Quérinou. Donc,
oui, forcément. Donc elle essayait les vélos. Oui. Elle s'y est mise.
Je ne sais plus si elle les essayait, mais bon, forcément, c'est influencé. Alors, jeune fille, elle s'est essayée à plusieurs sports comme le basket, la natation, et s'illustrait au cours de championnat de l'OSSU. L'OSSU, c'est l'UNSS d'avant, à la piscine de Tréhornou. Mais surtout, elle a participé très tôt à des compétitions en cycliste féminine. En 1947, elle s'est inscrite à 12 épreuves. Elle en remporta 9.
Ah.
Alors, elle préférait la route sur piste. Elle prenait du plaisir à dépasser ses rivales et à se détacher du peloton. Elle avouait craindre des réactions pas toujours maîtrisées qui pouvaient provoquer une chute. Alors, à l'époque, les prix qui étaient signés aux coureuses étaient un peu inconsistants, mais ça ne l'encourageait pas. Elle continuait.
Elle pouvait pas vraiment en vivre, en fait, de la course cycliste, quoi. C'est ça.
C'est ce qu'on peut. On peut dire ça, oui. Mais ça ne l'a pas découragée. Elle est allée jusqu'au bout. Elle notait ses victoires sur son carnet de route dans un tableau d'honneur rigoureusement tenu à jour. Il faut croire que ça l'a conservée aussi. Elle est morte en 2009.
Oui. Et on sait jusqu'à quand elle a continué à faire du vélo, non? Même en amatrice.
Je ne l'ai pas noté.
Une autre chanteuse dont, alors là, impossible de trouver des enregistrements parce que c'est une chanteuse plus locale que Berthe Silva, hein, Jeannette Bouyol.
Oui, effectivement, sa renommée n'a jamais vraiment quitté les frontières du pays de Brest. Elle est née le 13 avril 1904 à Recouvrance. Voyez, excusez-moi, la bête de Jean Kémeneur, c'est partie de son répertoire.
Ah oui.
Donc,
Est-ce qu'elle composait ou non? Elle reprenait des chansons des gens.
Je n'ai pas souvenir de composition, donc. Elle est restée une chanteuse plutôt amatrice, bien que très populaire dans la dans la région. Elle s'est mariée à un ouvrier du bâtiment, elle a passé la Seconde Guerre mondiale, a signé les hôpitaux, toujours pour chanter et apaiser la douleur des blessés. C'est une vraie chanteuse prolo, comme on dit. Donc,
ah oui, mais c'était une chanteuse professionnelle, elle en vivait de son chant, Jeannette Bouilleul?
Je ne pense pas, non. Donc, elle n'a pas ma connaissance. Elle a participé à toutes les activités du PLR jusqu'à sa retraite, elle continuait quand même à chanter. Elle remporte en 1999 le concours des traits et aux chantants, sans grande concurrence, selon ses propres dires. Donc, elle a vécu assez longtemps pour voir son fils Jacques Bouilleul, ou Jackie pour les intimes, que je salue au passage si vous écoute. Donc, elle a voir en principe lui aussi une carrière musicale, et notamment avec les égoristes. Elle a même chanté plusieurs fois sur scène. D'ailleurs, si tu n'as pas trouvé d'extrait, en fait, tu aurais pu passer le refrain du dictionnaire franco-brestois. C'est elle qui le chante. En français, la première phrase, suivie de sa version brestoise. Les égoristes ont même sorti en 2000 un single intitulé Jeannette et l'égoriste.
Ah, oui,
on l'appelait la voix de Brest. Elle s'est tue en 2006 définitivement. Donc, et une des placettes de recouvrance porte désormais son nom, juste à côté de celle d'une placette qui porte le nom d'un glorieux prédécesseur, Henri Ansker.
Et on termine avec une reportrice et aviatrice, Geneviève Gauthier.
Oui, Geneviève Gauthier, effectivement, était née à Paris en 1922. Il faut effectivement, alors qu'elle était très jeune, donc elle est pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est réfugiée dans le Berry, où elle est devenue, alors que la guerre n'était pas encore finie, secrétaire dans un état-major FFI. Donc après la guerre, effectivement, elle est devenue reportrice, notamment en Afrique, où elle a suivi la décolonisation du Tchad et du Maroc. Donc, elle avait écrit beaucoup, des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. Et aussi, elle fut aviatrice aux côtés de Henri Giraud. Donc, c'était pas encore évident pour l'époque. J'ai du mal à parler d'elle sans une petite pointe d'émotion, puisque je l'ai connue personnellement. J'ai eu cette chance. En 2017, je l'ai rencontrée lors d'une exposition consacrée aux femmes remarquables de la rive droite. Et donc, j'étais impressionné par son parcours, elle par mon niveau d'études. Je suis improvisé son agent littéraire pendant 4 ans, jusqu'à sa mort survenue il y a deux ans. Donc,
et elle avait presque 100 ans.
Eh oui, elle aurait pu un an de plus, elle aurait pu être 100 en air. Et puis, accessoirement, qu'est-ce qu'elle était belle. Oui.
Merci beaucoup, Benoît. La prochaine émission consacrée à l'histoire de Brest portera sur le siège de la ville en 1944. En attendant, bien sûr, on peut réécouter cette émission sur le site de la radio. À bientôt.